Vous êtes sur RTL.
La salle info tout de suite, RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir et merci de votre fidélité. C'est parti pour deux heures d'infos de sourire, on vous prépare la dose quotidienne de curiosité avec la fine équipe en studio, Marion Calais, Cyprien Sini, Louis Baudin. Bonsoir les amis.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors au menu de l'émission, entre autres ce soir, Isabelle Mergaud invitée, Benzema en Arabie Saoudite ou encore Harry face au paparazzi.
Le prince à la une de notre journal, procès aujourd'hui à Londres face aux tabloïds et leur méthode, la presse accusée d'avoir piraté le téléphone de Lady Di.
Je vous donne deux autres rendez-vous. 18h15, Isabelle Mergaud donc sera notre invitée. Vous l'aimez aux grosses têtes, vous adorerez son nouveau film Des mains en or, une tendre comédie avec Josiane Balasco, interview et anecdote très sympathique en prévision.
Et puis 18h30, alors là, toute autre chose.
Oui, RTL a choisi ce soir de vous emmener dans une foire aux armes aux États-Unis, dans les dessous de l'actu. C'est Gun Show qui rythme là-bas les week-end et où vous pouvez acheter une arme de poing comme si vous étiez dans une braderie ou une brocante. Auparavant, dans quelques secondes, votre journal pour tout savoir dans l'actu ce soir, Marion.
Emmanuel Macron qui demande des sanctions claires et fortes contre les agresseurs de Kenzo, ce garçon malade, victime de violences dans le stade d'Ajaccio ce week-end. Le plan logement du gouvernement qui ne fait que des déçus et puis un médicament contre le cancer du poumon, risque de décès réduit de moitié.
À suivre aussi, dans cette demi-heure, le nouvel album des Schtroumpfs dans Laissez-vous tenter dernière, et puis ce sera Schtroumpfement bien aussi, ah oui, à 18h40 parce qu'on va défaire le monde et refaire un peu le match, les 20 minutes d'infos décalées. Cyprien, vous vous demandez pourquoi Benzema part à son tour après Ronaldo en Arabie Saoudite.
Oui, et sportivement et en termes d'engouement populaire, vous allez découvrir que ce championnat d'Arabie Saoudite, eh ben c'est peut-être pas si mal. Au menu également, le pourboire en berne et des douches chronométrées au camping cet été.
19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps, on va le refaire tous les quarts d'heure. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Julien.
La tendance pour demain.
Bah j'ai beau secouer mes écrans et tout, ça change pas. Il y a toujours le soleil au nord et les orages dans le sud.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc pour commencer, des écoutes illégales et un prince qui se fait désirer.
Dans le procès engagé par Harry contre un tabloïd britannique, le Daily Mirror, devant la Haute Cour de Londres, procès que vous suivez pour RTL, Marie Billon, bonsoir.
Bonsoir.
Le prince Harry qui ne s'est pas présenté aujourd'hui comme c'était prévu, ce qui n'a pas empêché son avocat de passer à l'offensive avec de premières accusations.
Oui, et la plus grosse bombe, comme l'appelle la presse déjà, elle a été lâchée par l'avocat d'Harry qui accuse donc le Daily Mirror d'avoir piraté le téléphone de Diana, sa mère, donc quelques mois seulement avant sa mort. L'avocat accuse aussi le groupe de presse de n'avoir jamais considéré qu'il y avait quelque chose de sacré à respecter dans l'enfance et la jeunesse d'Harry et d'avoir employé des méthodes à maintes reprises illégales pour obtenir des informations, téléphone sur écoute au détective privé engagé pour le suivre. L'avocat donc a tapé fort dans ses accusations, c'était prévu, mais c'est aussi important pour montrer que son client est sérieux dans son litige avec le tabloïd, parce que Harry, il s'est fait taper sur les doigts par le juge ce matin à cause de son absence. Le prince aurait dû être présent au tribunal, le juge l'avait demandé, mais Harry, débarqué au dernier moment des États-Unis pour ne pas manquer l'anniversaire de sa fille, n'était pas là aujourd'hui. Résultat, au lieu d'un jour seulement de contre-interrogation par l'avocat du groupe de presse, Harry sera finalement cuisiné pendant un jour et demi à partir de demain, et l'avocat du groupe était très fâché parce qu'il a vu comme un manque de respect à la cour. On s'attend donc à un interrogatoire musclé.
Le prince Harry face au tabloïd, nouvel épisode d'un feuilleton qu'on imagine encore donc à rebondissement et qu'on suivra avec vous, Marie Billon, à Londres pour RTL.
RTL Soir.
Et après l'agression de Kenzo samedi soir dans le stade de foot d'Ajaccio, les mots aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
Comme toutes les violences, c'est évidemment inacceptable. Je pensais très ému pour Kenzo, ses parents. Il a à se battre et il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C'est un supporter fidèle et rien ne justifie cela. Mais ça montre, vous voyez, une espèce de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer. Et donc j'attends que les sanctions les plus claires, fortes soient prises. Nous allons tous et toutes continuer d'être aux côtés de la famille aussi pour qu'il puisse se relever de ce traumatisme et sa famille avec lui parce qu'ils ont déjà, je le disais, des combats très importants. Mais il n'y a aucune violence à laquelle on peut s'habituer.
Et au-delà du chef de l'État, condamnation aujourd'hui du président de l'OM aussi, Pablo Longoria, qui dénonce des failles dans la sécurité du stade.
Oui, parce que l'enfant de 8 ans, fan de l'OM, atteint d'un cancer du cerveau, était invité en loge ce week-end pour suivre la rencontre entre Ajaccio et Marseille. Un rêve qui pour lui a tourné au cauchemar. Sa famille dénonce une intrusion et des violences de supporters corses contre lui et ses proches. Hugo Hamelin, vous êtes l'un des correspondants de RTL à Marseille. Des faits qualifiés aujourd'hui d'inhumains par le président de l'OM.
Oui, c'est vrai. Pablo Longoria, visiblement très touché par la situation. C'est l'un des moments les plus tristes de ma saison, a-t-il dit. Lui qui a vu le match dans la loge voisine de la famille de Kenzo au stade d'Ajaccio, même s'il est arrivé juste après les incidents.
Quelle classe de malade mental se permet de faire ça? Parce que c'est un malade mental, qu'il n'y a pas la place dans la société. Je ne peux pas comprendre comment agresser un enfant quand il te retrouve le petit Kenzo qui tremblait. Je te dis, qu'est-ce qu'il y avait à faire avec cet sport et cette société?
Une agression qui a eu lieu dans une loge qui est donc normalement sécurisée, à minima, justement pour empêcher les intrusions.
S'il y a une faille de sécurité, dans le moment qu'un enfant s'est fait agresser dans un stade de football, oui, il y a une faille de sécurité. Il est venu à la femme dans les couloirs à la sortie des joueurs. Néanmoins, avec ça, on a été à la hauteur de donner au moins un petit moment de joie.
Un moment de joie que l'Olympique de Marseille promet de rééditer en invitant prochainement au stade Kenzo et son petit frère de 6 ans, Julian, qui était également présent au moment de l'agression. Mais cette fois, ce sera en terre conquise au stade Vélodrome, loin des hooligans adverses.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Jusqu'à 3 ans et demi de prison ferme, réquisition aujourd'hui dans le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, le mois dernier à Amiens, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites.
Une rencontre, mais des doutes. La maman de l'INSEE, cette collégienne qui s'est suicidée le mois dernier dans le Pas-de-Calais, a été reçue aujourd'hui par le ministre de l'Éducation.
Rencontre dont elle est sortie sceptique et critique sur la capacité de l'État à lutter contre le harcèlement dont sa fille a été victime.
Je me sens seule, pas aidée. Il y a des choses qui ont été dites, mais moi, je ne l'ai pas trouvée sincère, en fait. Donc, j'attends que les choses bougent, j'attends de voir des actes. Et de nous tenir informés de ce qui va se passer toutes les semaines. Moi, je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui. Je pense que s'ils auraient été là avant, elle serait là, ma fille. J'ai juste ça à vous répondre. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. On n'a pas été aidés à temps, ni avant, ni pendant, ni après, comme je l'ai dit.
La maman de l'INSEE au micro RTL de Julie Brault. Autre affaire emblématique de ce fléau du harcèlement, le suicide de Lucas, 13 ans dans les Vosges en janvier dernier. Aujourd'hui, 4 collégiens reconnus coupables de harcèlement par le tribunal pour enfants d'Épinal, mais le lien avec le suicide n'a pas été retenu.
On vous explique ce soir à 18h07 la déception des professionnels du logement. Le gouvernement souhaite la mort de l'immobilier, ce sont les mots de l'un de ses représentants.
Le gouvernement qui après des mois de discussions dans le cadre du Conseil national de la refondation, a présenté aujourd'hui son plan pour le logement. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Avec un objectif principal, relancer l'accès à la propriété.
Oui, absolument. Et pour ce faire, la principale mesure, c'est le maintien du prêt à taux zéro, le PTZ. Il va être prolongé pour 3 ans et doté de 600 millions d'euros par an. Mais il sera recentré sur l'achat de logements neufs ou collectifs dans les zones tendues. Ailleurs, sur le logement ancien, à condition qu'il y ait des travaux de rénovation. Il ne concernera donc pas les acquéreurs de pavillons neufs. Des décisions sont également attendues mi-juin pour assouplir l'obtention du crédit lors d'un premier achat ou pour l'investissement locatif. Ensuite, pour un meilleur accès à la location, 2 millions de locataires, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui, pourront bénéficier d'une caution publique quand le dossier est jugé trop juste par les propriétaires. Le gouvernement veut aussi développer le logement locatif intermédiaire destiné aux classes moyennes en l'ouvrant à une centaine de communes supplémentaires, notamment dans des zones très demandées. En revanche, la niche fiscale Pinel va s'arrêter car le gouvernement veut privilégier des aides accrues en faveur des rénovations énergétiques plus performantes. Et puis, les mesures fiscales pour favoriser le logement de longue durée par rapport aux meublés de tourisme sont renvoyées à plus tard. Bref, c'est peu dire que ce plan déçoit les acteurs du secteur.
Pourquoi ces mesures justement suscitent de telles réactions dans le secteur?
Eh bien, pour les professionnels qui font part de leur colère, elles ne sont pas de nature à relancer l'accès à la propriété. La suppression du PTZ dans plus de 90% des communes, ainsi que celle du Pinel sans alternative, vont donner un coup d'arrêt à la mobilité des Français, disent-ils. Quant au secteur associatif, Fondation Abbé Pierre ou Union sociale pour l'habitat, il estime qu'aucune annonce n'est de nature à relancer le logement social.
Explication signée Marie-Bénédicte Allaire, merci. 250 cortèges, 400 à 600 000 personnes attendues dans la rue demain partout en France pour ce qui pourrait être la dernière journée de mobilisation, la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Peu de perturbations attendues par ailleurs, un 9 trains sur 10 à la SNCF, trafic normal à la RATP.
Allez, le journal continue dans un instant dans RTL Soir avec un médicament au résultat impressionnant, vous allez l'entendre, contre le cancer du poumon. Et puis la jeune garde à l'honneur à Roland-Garros, on revient dans quelques secondes.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc à 18h11 sur RTL, la suite du journal avec cette avancée majeure. Écoutez bien, dans la lutte contre le cancer du poumon.
Cancer qui cause le plus de décès dans le monde. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Cette avancée, elle vient d'être présentée à Chicago, où se tient en ce moment le Congrès mondial de cancérologie. C'est un médicament, un comprimé qui réduit de moitié le risque de décès.
Oui, un comprimé pris au quotidien par des patients à un stade précoce de la maladie, après avoir subi une opération chirurgicale pour extraire la tumeur. Ce traitement, développé par le laboratoire AstraZeneca, vise la forme la plus commune du cancer du poumon, celui dit non à petites cellules, et qui présente donc un type particulier de mutation des cellules cancéreuses, des mutations qui concernent 10 à 25% des malades. Les résultats de cet essai clinique, réalisé durant 5 ans sur 600 patients dans une vingtaine de pays sont là, extrêmement encourageants, puisque la prise de cette thérapie ciblée qui empêche la maladie de se propager au cerveau, au foie et aux os divise donc par deux le risque de décès pour les patients traités comparé à ceux qui ont reçu un placebo. Ces données vont certainement changer la donne et la prise en charge des malades. En France, où le médicament est déjà autorisé, environ 1000 patients pourraient être concernés.
Précision signée Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Et puis, est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne? En tout cas, Kiev a confirmé aujourd'hui des actions dans un certain nombre de secteurs du front, revendiquant même des succès près de Bakhmout.
À Roland-Garros maintenant, les huitièmes de finale suite F1 aujourd'hui.
RTL Roland-Garros 2023.
Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir Marion.
Ce lundi qui est un peu la journée des jeunes prétendants, hein?
Oui, parce que nous avons Coco Gauff, 19 ans, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle était finaliste l'an dernier. Et elle s'est imposée en deux petits sets face à la Slovaque Shmidova, 7-5-6-2. Elle pourrait retrouver en quart de finale et bien celle qui l'avait battue l'an dernier. La numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Świątek, qui jouera tout à l'heure face à l'Ukrainienne Tsurenko. Pour le moment, il y a aussi un petit jeune sur les courts, hein, 20 ans, Holger Rune, 6e mondiale, qu'on a donné un petit peu dans les favoris de ce tournoi. Eh bien, il est un petit peu à la peine en ce moment sur le court Suzanne Lenglen, même s'il mène 2-7-1 face à l'Argentin Cerundolo. C'est Cerundolo qui fait la course en tête, 4-0 dans la quatrième manche. Un petit coup de mou pour Rune. Le vainqueur retrouvera en quart de finale Casper Ruud, le Norvégien finaliste ici l'an dernier, qui a mis fin au parcours de Jarry en 3-7. Et puis, je vous signale qu'on a une nouvelle joueuse française qui est numéro 2 au classement mondial. Numéro 2 mondial, non, qui est numéro 2 française au classement. Elle s'appelle Varvara Gracheva. Elle a obtenu la nationalité française aujourd'hui. Sa naturalisation, c'est officiel. La Russe de 22 ans est 41e au classement. Elle est en France depuis 2016. Elle s'entraîne dans la fameuse académie de Cannes de Jean-René Lisnard, où a été formé également Daniil Medvedev. Et Gracheva devient donc la deuxième française derrière Caroline Garcia.
Merci Isabelle Langer. Roland-Garros, c'est toutes les 30 minutes sur RTL et on retrouvera Henri Lecomte, notre consultant tout à l'heure.
On ne peut pas naturaliser un Casper Ruud ou un Holger Rune.
Oh oui,
ça,
tant qu'à faire.
Ils sont mieux classés en plus. Merci Marion, à tout à l'heure. Bon, le temps, Louis, c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Cyprien Sini qui scrute la météo, vous le savez, de manière régulière, juste, et qui rentre dans ce studio juste avant le journal. Il n'y a plus de pluie à Roland-Garros. Là.
Non, il n'y a pas de pluie. Bah non, la situation est bloquée depuis 15 jours.
Il n'y aura plus jamais de pluie à Roland-Garros.
Ils ont bien fait de construire un toit.
C'est pas dit que pour le week-end, ça sert pas à l'autre.
Donc,
pour les derniers jours, voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant et pour demain encore, hein, ça sera toujours la même répartition. Donc, le temps sec, ensoleillé dans la moitié nord, et puis ces orages qui évolueront au cours d'après-midi dans le sud, avec toujours autant de disparités hein, d'un endroit à l'autre. On peut avoir de fortes averses, parfois accompagnées de grêles, puis à d'autres avoir simplement quelques pluies. Donc ça, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Et puis côté température, ben, ça ne bougera pas encore hein, demain. 17 à 23 degrés près de la Manche, mais 24 à 28 degrés dans toutes les autres régions.
Merci Louis. Petite pause et puis Isabelle Mergo sera avec nous ensuite. D'habitude, elle est au micro deux étages plus bas dans le studio des Grosses Têtes, mais ce soir, elle vient nous présenter son nouveau film Des Mains en Or avec Lambert Wilson en écrivain pompeux et Josiane Balasco en rebouteuse grande gueule. Ça promet, on la retrouve dans quelques secondes.
RTL Soir.
Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, RTL Soir continue, 18h, 18 minutes, et on est ravis d'accueillir une collègue ce soir. Alors d'habitude, vous l'entendez avant 18h, mais elle fait une exception ce soir. Notre invitée, c'est Isabelle Mergo. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Sociétaire évidemment des Grosses Têtes et réalisatrice des Mains d'Or, une comédie tendre. Des Mains en Or, pardon. Comédie tendre au cinéma des mercredis, ça commence bien. L'histoire d'un futur académicien, alors un peu coincé, mais dans tous les sens du terme, parce qu'il a le dos bloqué et une vie très 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 bien rangée, voire même trop trop rangée. C'est un écrivain célèbre qui va rencontrer un peu par hasard une rebouteuse, une grande gueule, qui va le guérir et le ramener à la vie, à la vraie vie. Lambert Wilson face à Josiane Balasco, ça c'est le duo à l'écran. Cette histoire, en fait, elle est quand même pas complètement fictive, parce que, paraît-il, comme dans le film, un jour vous vous êtes perdu en Normandie, et vous avez rencontré une guérisseuse miracle. C'est quoi cette
histoire ? Parce que je souffrais d'une jambe, je boitais et je perdais beaucoup de muscles. Et puis les médecins ne trouvaient pas, j'avais fait tous les examens et tout. Et puis je me perds en Normandie où il n'y a pas beaucoup de réseau. Et je n'avais pas de GPS, j'étais complètement larguée. En plus, je n'ai pas le sens de l'orientation. Et je toque à la porte d'une maison qui était au milieu de nulle part. Et la dame me dit « Mais qu'est-ce que vous avez à la jambe ?» Alors que je voulais rentrer chez moi.
Vous ne lui avez pas parlé de votre jambe et elle vous a dit c'est fou ça. Bonjour, dites donc, j'ai mal à la jambe.
Je fais toutes les maisons. Je voulais rentrer chez moi, mais bon, elle m'a fait rentrer chez elle. Et puis, elle était très concentrée sur ma jambe, tout ça. Et puis, je suis ressortie, je ne boitais plus.
Mais c'est fou. Elle vous a guéri comment
je ne sais pas. Elle était concentrée, elle a mis ses mains sur ma jambe. Je ne sais pas. J'ai été la revoir deux, trois fois et puis après, c'était complètement terminé.
C'est fou. Mais alors, il faut préciser à nos auditeurs quand même que les médecines parallèles, au départ, c'est pas trop votre truc. Hein. Vos parents sont médecins, père et mère.
Ah bah oui, carrément. Mais c'est tellement pas mon truc que quand on m'a dit que je terminerai avec une canne pour marcher, j'ai dit bon, d'accord, j'ai même pas penser faire appel à une médecine parallèle, quoi. C'est pas dans ma nature, quoi. C'est le pur hasard, comme dans mon film. Et il tombe de façon hasardeuse sur Josiane Balasco, qui a des mains en or.
Exactement.
C'est là où vous dites qu'il faut faire un film là-dessus ou pas?
Parce que j'ai demandé autour de moi et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens mais ils ne le disent pas toujours, qui avaient été voir au moins une fois, ou en tout cas, si ces personnes n'avaient pas vu de guérisseuse, ils connaissaient quelqu'un qui avait vu. Et c'était. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, les gens essayent d'aller vers des médecines d'essayer autre chose.
Et autour de cette guérison, vous créez donc ce duo. Alors, il y a l'intellectuel très beau, mais franchement un peu ennuyant et un peu antipathique. Et puis, il y a la guérisseuse. La guérisseuse qui chante dans des bistrots, qui a une grande gueule et un grand cœur. Est-ce que vous avez tout de suite pensé à Lambert Wilson et Josiane Balasco ?
Quand j'ai eu fini d'écrire, mais pas pendant que j'écris, c'est dangereux de penser à un comédien quand on écrit, parce que s'il n'est pas libre ou qu'il le refuse, après vous avez la musique de cette personne, et c'est compliqué de faire un casting. Donc c'est après. Oui, ça me paraît évident d'avoir Josiane Balasco qui est pleine d'empathie, qui est proche des gens. Et pour faire ce métier, je pense qu'il faut être proche des gens. Et puis d'un vaniteux Lambert Wilson, qui n'est pas du tout comme ça dans la vie, il n'y a pas plus simple, mais qui fait très bien ça, qui est puis très, très hautain, un côté un peu anglo-saxon.
Mais ça fait franchement du bien, cette histoire, parce que c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre deux personnes que tout oppose, qui sont dans deux classes, deux milieux complètement différents. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où on a l'impression qu'on est de plus en plus fragmenté et divisé, donc ça fait du bien.
Oui, mais c'est surtout que j'ai voulu montrer que lui, elle est dans l'être. Et lui, il est dans le paraître. Il aime le décorum, il aime les lumières artificielles, il aime les beaux costumes, il aime qu'on le reconnaisse et il se sent flatté. Donc, il est dans le paraître. Et elle va peut-être
s'en. Il est prisonnier de son carcan, en quelque sorte.
Ouais. Et puis, il aime les récompenses, comme on en connaît beaucoup, qui sont. C'est plus important que tout d'avoir un César, d'avoir un Molière et tout. Alors que. Tout ça, c'est vanité des vanités. Quoi.
Et dans ce film, Lambert Wilson, donc le futur académicien, donne à Josiane Balasko, qui ne savait pas au début du film ce qu'était un alexandrin, l'envie d'écrire. Et donc, elle se met à raconter sa vie et elle passe ses journées, du coup, à écrire. Ouais. Vous, l'écriture, racontez-nous, quand vous écrivez un scénario, est-ce que c'est un processus qui est toujours le même? Est-ce que c'est bien huilé? Est-ce que vous fixez des horaires de travail? Est-ce que vous avez un bureau? Alors, racontez-nous. Je ne vous vois pas trop avec des horaires de travail et un bureau.
C'est le foutoir. Je fais manger les enfants d'abord, et puis après je vais dans mon bureau, et puis après j'ai faim, alors je remonte dans le frigidaire. J'arrête pas de bouger et tout, mais au moins j'y pense, quoi. Écrire, c'est pas être devant son ordinateur, c'est pouvoir avoir des plages de solitude où on rumine finalement et on s'endort avec, et le lendemain on a la clé parfois. Mais moi c'est le foutoir, je sais pas construire du tout. Je sais construire un peu, mais je dialogue très facilement, donc ça peut durer 3 heures et c'est pas le but. Et donc c'est non, je prépare rien, je sais jamais comment ça va se terminer, je me laisse aller.
Et l'écriture, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est la passerelle qui vous a fait passer derrière la caméra. En fait, vous aviez écrit le scénario de votre premier film, cet immense succès populaire « Je vous trouve très beau » avec Michel Blanc, et vous vouliez juste écrire l'histoire au départ. Et puis Michel Blanc, il vous a dit... Bah non, c'est ton film, quoi. Moi, si je joue dedans, si c'est le tien, quoi.
Voilà, j'étais que scénariste, c'était un scénario en plus, quoi. Et il m'a dit non, c'est toi qui réalises, parce qu'un metteur en scène va mettre sa patte là-dedans, il va tout enlever, le charme qu'il y a. Si tu le fais pas, je le fais pas. Oh. Alors j'ai dit, ok, on va le faire.
Merci Michel Blanc.
Et alors, je dois revenir sur une scène de votre film qui est très drôle, irrésistible, même Lambert Wilson qui joue au loto-bouze.
Oui.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez expliquer à tous nos auditeurs ce qu'est le loto-bouze?
Est-ce que vous savez, vous avez déjà participé au
Mais Cyprien a effectué une chronique sur le loto-bouze il y a quelques années. C'est le spécialiste maison ici, voilà. RTL.
Alors, moi j'y étais, c'était en Seine-et-Marne.
Vous l'avez vécu?
Je l'ai vécu. Et donc, imaginez un grand champ comme un champ de foot avec quelqu'un qui, à la chaud, trace des cases.
Avec des numéros dans les cases.
Avec des numéros. Et puis, comme c'est une vache qui va arriver et que c'est un loto, que ça s'appelle le loto-bouze, vous imaginez bien ce que ça va être. Hein. Donc, on prend chacun un numéro. Et puis, là où elle pose sa bouze, mais elle met du temps parce qu'elle a un régime spécial pour ne pas la poser trop vite, parce qu'il y a quand même les saucisses,
faut du suspense,
les merguez, les frites, la bière à écouler et tout, c'est une fête. Donc si elle pose sa bouse tout de suite...
Il n'y a plus de fête, quoi. Vous avez gagné ou pas au loto-bouze?
Non. Mais alors, ce jour-là, elle avait fait sa bouse entre l'intersection de quatre cases.
Alors, qui gagne? Les quatre numéros?
Attendez, pas du tout. Il y avait un huissier qui est arrivé, il s'est baissé pour mesurer. Il était complètement bourré, parce que c'est une excuse à picoler, à manger des cochonneries.
Et il y avait
sa bavette blanche, là, qui a trempé dans la bouse.
Il y avait quoi en jeu?
Une Clio.
Ah oui, on ne peut pas couper la Clio en quatre, ça ne marche pas.
Non, mais elle a été là où dans la case où il y avait le plus de bouse, la Clio est revenue à la personne, quoi.
Voilà, on a plein de choses.
Ça existe vraiment, le loto-bouze.
Bon, on est ravis de vous recevoir ce soir parce qu'en plus, vous êtes un peu à la maison ici. Votre première, c'était il y a 35 ans, en grosse tête. Est-ce que c'est toujours le même... Désolé. Est-ce que c'est toujours le même plaisir chaque jour de retrouver la bande de copains? Parce que cette bande, elle évolue, elle s'agrandit.
C'est bien qu'elle évolue, qu'elle s'agrandisse, parce que sinon on tourne tous autour du même, autour de nous et tout. Et ça fait beaucoup de bien, l'arrivée de Toen, de Sébastien Toen. Moi, je suis alors, je l'adore. Il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Je vois dans les réseaux sociaux. Moi, je suis fan absolu. Il me fait rire, il est inventif, il est libre.
Il est libre. C'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, quand il fait des chroniques le matin chez nous, parfois il fait 6 minutes. Hein,
il est brillant, il me fait rire. De toute façon, voilà.
Et il paraît que vous avez même failli, alors vous allez me dire si c'est vrai, vous mariez avec Laurent Ruquier.
Oui. On était, chacun dans une grande solitude. Et il m'a dit, écoute, on n'a qu'à réunir nos solitudes, on se marie, et puis comme ça tu feras à manger, moi, puis on restera libre, on sera un couple libre et tout. Et bon, on avait un petit peu pris l'apéritif. Ah. Et j'ai dit oui, d'accord, ok, on se marie. Et bon, puis le lendemain, on s'est réveillé. Puis on s'est dit, attends.
C'est pas l'idée du siècle.
On va réfléchir. Mais il m'a demandé en mariage.
Bon, parmi les sociétaires, juste pour terminer, est-ce qu'on peut jouer à c'est qui le plus c'est qui le plus drôle? C'est Toen le plus drôle?
Ah, moi, Toen me fait beaucoup rire.
Et le plus intelligent?
Toen, il résume pas mal de choses pour lui. Mais Caroline Diamant est loin d'être bête.
Et le plus taquin?
Taquin, c'est quoi taquin?
Taquin, qui aime bien vous...
Qui vous énerve un peu, peut-être.
Ah, qui m'énerve un petit peu. Ils n'osent pas trop m'attaquer, de toute façon. Moi, il m'a plus taquin.
Trop de répartie.
Ah, si, non, c'est... comment elle s'appelle? C'est qui a un accent, là.
Marcella Yacoub.
Marcella Yacoub.
Vous me demandez, je suis fan.
Marcella Yacoub.
C'est corporate, hein.
Elle est taquine.
Elle est taquine, Marcella Yacoub. Merci Isabelle Mergo d'avoir passé un moment avec nous. Chez vous, ici, dans RTL
Merci
Soir. Votre film sort donc mercredi au cinéma. Et on vous remercie d'avoir été notre invité.
Merci à
ce
vous.
Ce soir, on était ravis de vous avoir en studio. RTL Soir vous va se poursuivre dans quelques secondes. La formule, vous la connaissez, c'est du sourire et puis c'est de l'info aussi. Il y aura les deux après la pause parce qu'on va schtroumpfer dans Laissez-vous tenter dernière, on va vous présenter le dernier album des Schtroumpfs et puis dans vos dessous de l'actu, un reportage assez glaçant. On va vous emmener aux États-Unis. RTL a assisté à une foire aux armes. Vous imaginez la braderie, la brocante, chez nous, ça rythme le week-end, c'est sympa, c'est bon enfant, sauf que là-bas, on achète des armes de poing. Et très facilement, vous allez l'entendre. On se retrouve dans quelques secondes.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
RTL Soir, 18h32 minutes.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
C'est les trois titres de l'actu à retenir ce soir, Marion.
Des violences inacceptables, les mots d'Emmanuel Macron au sujet de l'agression du petit Kenzo, 8 ans, agressé samedi dans le stade d'Ajaccio. Il était invité pour le match de Ligue 1 contre l'OM. Dans le procès des trois agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens le mois dernier, les réquisitions jusqu'à 3 ans et demi de prison ferme demandées. Et puis en Ligue 2, montée et relégation toujours en suspens. La commission de discipline de la Ligue se prononcera lundi prochain sur l'interruption du match entre Bordeaux et Rodez vendredi suite à l'agression d'un joueur ruthénois par un supporter.
Et le temps pour demain, Louis?
C'est toujours la même chose. Je trace un trait entre La Rochelle et Genève à peu près. Au sud, encore des orages en cours d'après-midi. Et puis dans la moitié nord, là, toujours du temps sec et ensoleillé. Un peu moins de vent près de la Manche. Les températures, 17 à 23 degrés l'après-midi sur ce littoral de la Manche, 24 à 28 degrés ailleurs.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir d'un gun show. RTL a assisté ce week-end à une foire aux armes aux États-Unis, dans l'État de New York. Alors c'est très commun là-bas, il y en a tous les week-ends, c'est un peu comme les brocantes chez nous, mais la suite est quand même plus glaçante. Tendez l'oreille. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir à tous.
C'est vous notre correspondant sur place. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance? C'est quoi? C'est une ambiance type braderie chez nous?
Oui, alors c'est souvent en zone rurale. Là, j'étais à Middleton, 30 000 habitants, à moins de 2 heures au nord de la ville de New York. Mais alors c'est tout autre monde. Vous avez le stade municipal, la salle des fêtes et puis ce hangar pour acheter vos armes. Une trentaine de tables différentes. Un droit d'entrée, $15. C'est gratuit pour les moins de 12 ans car beaucoup viennent en famille avant ou après les courses alimentaires de la semaine. Alors ce n'est pas le cas partout, mais dans l'État de New York, il faut quand même laisser son arme personnelle à l'entrée.
On peut acheter quoi dans ces foires aux armes champêtres?
Alors de tout, fusils automatiques, fusils de chasse, armes de poing, tout type de munitions bien sûr, mais aussi des couteaux, des nunchakus, des tasers. Et puis sur le stand de Mike, une arme de sa propre fabrication, Carton, une arme étonnante et effrayante.
On appelle ça une batte pour zombies, comme dans la série The Walking Dead, avec des clous autour. Ça c'est un couteau comme dans le film Predator. Non, vous n'avez pas besoin de permis.
Alors, pas besoin de permis pour ça, mais pour les armes à feu dans l'État de New York, on vérifie quand même vos antécédents judiciaires avant de vous donner une arme.
Mais qui achète des armes dans ce type de foire?
Alors pas que, mais en majorité des électeurs conservateurs. Il y avait d'ailleurs des t-shirts et des casquettes Donald Trump à vendre ce week-end. De plus en plus de femmes également. La moitié des nouveaux acheteurs sont des femmes. Kim, elle, n'est pas une novice. Cette mère de famille qui travaille dans la sécurité venait compléter son arsenal.
Attendez, j'ai un P30, un AR-15 automatique et quelques back powder. C'est mon droit de me protéger avec ma famille. J'ai des armes pour m'assurer que rien de mal n'arrive.
Alors si vous évoquez les fusillades de masse, hein, ce sera toujours la même réponse. Le problème, ce n'est pas l'arme, mais celui ou celle qui la tient. Chaque année, il y a près de 50 000 morts par arme à feu aux États-Unis, la moitié par suicide.
Les dessous de ces foires aux armes aux États-Unis, c'était le choix de RTL Soir. Merci pour ce reportage à Middleton, dans l'État de New York. Lionel Gendron, merci.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Allez, changement de décor, ça va nous faire du bien. 18h36.
Laissez-vous tenter, dernière.
Oui, petit générique original dans Laissez-vous tenter dernière. Ce soir, Monique Younes nous a rejoint. Bonsoir Monique.
Bonsoir.
On va schtroumpfer des schtroumpfs, c'est ça maintenant?
Mais oui, nous sommes en pleine schtroumpfitude, mon Julien. Un schtroumpf de bande dessinée vient d'être publié aux éditions du Lombard. Vous l'avez entre les mains. Il a pour titre, schtroumpfrez-vous bien, qui est ce schtroumpf? Il est écrit et dessiné par Thébaud.
Thébaud qui n'est autre que le co-auteur avec Zep du Capitaine Biceps.
Exactement, énorme schtroumpf en librairie. Alors pour ce nouvel album des schtroumpfs, Thébaud ne cherche pas à schtroumpfer le dessin de Peyo, le créateur des petits bonhommes bleus. Il a gardé son dessin et ce sont les schtroumpfs vus par Thébaud. L'album raconte l'histoire d'un schtroumpf inconnu qui ne parle pas le schtroumpf.
Schtroumpf alors ?
Mais oui, ce schtroumpf inconnu atterrit au village des schtroumpfs. Personne ne l'a jamais vu. Il ressemble à tous les autres. Il a un bonnet, un collant blanc, la peau bleue. Mais il ne schtroumpf rien de rien. Quand le grand schtroumpf lui souhaite la bienvenue au village, le schtroumpf inconnu commet sa première gaffe en demandant si le village est invincible contre les Romains grâce à une certaine potion magique.
Donc il s'est trompé de schtroumpf, c'est ça ?
Ah, il a besoin de re-schtroumpfer son logiciel alors. Pendant que le grand schtroumpf cherche vainement la potion miracle pour le guérir de son amnésie, la schtroumpfette essaye de remonter aux origines de ce schtroumpf inconnu. Un vieux dicton schtroumpf prétend que pour schtroumpfer qui tu es, il faut schtroumpfer d'où tu viens. Et un autre dicton dit il faut schtroumpfer quand le schtroumpf se schtroumpfe. Alors comme je n'ai pas pris le schtroumpf en seconde langue, j'ai demandé de l'aide à Thébaud qui est complètement bilingue.
Là, ça devient un peu plus compliqué. C'est le plaisir quand on reprend les schtroumpfs, c'est de justement jouer avec le mot des schtroumpfs. Au début, j'ai trouvé plein de gags avec le langage des schtroumpfs. Je pensais que j'étais très, très original, que j'étais très moderne. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les albums, ils avaient déjà fait tous ces genres de blagues-là. Donc j'ai dû les enlever. Et j'ai dû vraiment creuser la tête pour trouver des gags vraiment nouveaux avec le langage.
Thébaud, qu'on entend, c'est pas rien quand même de reprendre un tel classique, hein, Monique.
Mais oui, vous savez, Thébaud m'a avoué qu'il a été à deux doigts de la dépression pendant ses 9 mois de préparation. Mais il a finalement très bien réussi à mixer son univers à celui de Peyo. Il s'est surtout fait plaisir, inventant des rebondissements à gogo, des courses-poursuites en schtroumpf, tu en voilà, ajoutant des monstres dingos et rendant le fameux Gargamel encore plus méchant que celui imaginé par Peyo. Il y a aussi des poules, vous allez voir, une schtroumpferie totale. Alors bref, ce nouveau schtroumpf vous donnera l'occasion de réviser votre schtroumpf avec vos gamins. C'est, croyez-moi, le meilleur schtroumpf depuis longtemps. Vous saurez enfin qui est ce schtroumpf inconnu. C'est aux éditions Le Lombard et il vous en coûtera 11 schtroumpfs, 5 ans. Ah oui.
En général, quand on commence en école de journalisme, on dit qu'il faut éviter les répétitions, mais c'est vrai que pour une telle chronique, c'était difficile.
Non, c'était schtroumpfement bien.
C'est schtroumpfement difficile d'éviter les répétitions ce soir. Vous êtes parfaitement bilingue, chère Monique Younes. Merci beaucoup pour cette jolie chronique, bande dessinée. Et restez avec nous parce que RTL Soir, ce sera schtroumpfement bien aussi. Après la pause, on va défaire le monde dans quelques secondes et vous proposer de regarder l'actu avec un œil plus décalé. Le trio, Cyprien Sini, Isabelle Choquet, notre schtroumpf costaud, Laurent Tessier, bonsoir. Schtroumpf muscu, bonsoir les copains. Alors on va défaire le foot en Arabie Saoudite parce que Karim Benzema va y finir sa carrière, il va toucher le jackpot, Ronaldo y est déjà. Ça ressemble à quoi au fait le championnat saoudien? Bah c'est pas si pire que ça. On vous explique tout juste après la pause.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.